Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 28 décembre. Un homme de 38 ans, étudiant en histoire, se jette dans le Rhône pour protester contre la répression dans son pays en Iran. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Le chèque énergie bois mis en place par le gouvernement. Explication sur le dispositif dans ce quart d'heure lyonnais. Une rencontre avec un agriculteur bio nouvellement installé à Talluyer. La ferme Fait l'un pour l'autre a vu le jour en 2021. Rencontre avec Julien Clavery. D'abord expérimentées en 2021 à Gerland, elles sont arrivées en 2022 à Villeurbanne. Les bornes à compost vont progressivement investir plusieurs arrondissements lyonnais en 2023. Muétique, un média indépendant sur la région qui parle d'environnement et d'enjeux sociétaux à travers des podcasts ou des web-séries. Rencontre avec l'un des producteurs de Muétique, Axel Legroux. L'Olympique Lyonnais reprend le championnat à Brest ce soir. Et puis du changement à la tête de Jazz à Vienne.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mohamed Moradi, un homme de 38 ans, étudiant en histoire, s'est jeté dans le Rhône lundi vers 18h. Il voulait protester contre la répression dans son pays, l'Iran. Enseignant en histoire en Iran, Mohamed Moradi rêvait d'embrasser la même carrière en France. Juste avant son geste désespéré, il a posté sur les réseaux sociaux une double vidéo en français et en persan dans laquelle il annonçait vouloir se suicider pour protester contre les violences commises dans son pays. Le corps a été repêché dans le Rhône. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Ses proches ne l'avaient jamais entendu évoquer la possibilité d'accomplir un tel acte militant aussi extrême. Ces derniers mois ont été marqués par une violente répression en Iran depuis la mort de Mahsa Amini et de violentes répressions contre les manifestants. Mohamed Moradi participait régulièrement aux manifestations organisées chaque semaine place Bellecour. Des fleurs et des bougies allumées ont été déposées hier soir sur le pont Gallieni pour célébrer la mémoire de celui qui, à travers son suicide, a voulu attirer l'attention sur la situation dramatique que vit son pays. Une quarantaine de personnes ont pris part à la manifestation. 6 pompiers blessés alors qu'ils partaient en intervention dans la vallée de la Zergue. Leur véhicule est sorti de la route hier soir vers 19h entre Magny et Saint-Bonnet-le-Troncy en voulant éviter un véhicule qui s'est déporté. Le fourgon est tombé sur le bas-côté avant de terminer sa course dans un champ. Les pompiers ont été évacués sur un centre hospitalier. Un blessé grave a dû être héliporté. Son pronostic vital, toutefois, n'était pas engagé. Le gouvernement a mis en place un chèque énergie bois pour les Français qui se chauffent au bois. L'aide entrée en vigueur hier, peut être demandée bien sûr par les Lyonnais. Elle devra être demandée avant le 30 avril. En tout cas, rendez-vous sur le site du gouvernement en présentant une facture nominative prouvant un achat de bois d'un montant minimal de 50€ ou une attestation pour les ménages en chauffage collectif. Les chèques seront envoyés à partir de mi-février. Sont éligibles les ménages dont le revenu fiscal de référence n'excède pas 27 500€ à l'année. Le montant du chèque énergie bois d'une valeur de 50 à 200€ varie selon le revenu fiscal de référence.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Je vous propose une rencontre avec un agriculteur bio nouvellement installé à Talluyer. On parle souvent de ces paysans qui arrêtent leur activité. Pourtant, il existe bien une nouvelle génération. Julien Clavery en fait partie. Avec son épouse, il a créé une petite ferme artisanale en maraîchage biologique. La ferme Fait l'un pour l'autre a vu le jour en 2021. Julien nous explique la genèse de ce projet professionnel atypique.
Alors, c'est parti de très loin. C'est parti, moi, j'ai de la famille qui était dans l'hôtellerie restauration. Donc, j'avais un lien très fort avec les arts hôteliers et les arts culinaires. Et donc, moi, j'ai grandi dans la région de Lyon. Et puis après, j'ai pas mal bougé à Paris, à Toulouse. Et puis, enfin, bref, un peu à droite, à gauche. Et du coup, c'est un projet qui s'est concrétisé dans le cadre familial, en fait. C'est un projet de vie familial avec mon épouse où on a voulu un petit peu se offrir un cadre de vie un peu plus proche de la nature à nos enfants qui n'étaient pas nés à l'époque. Et du coup, c'est parti de là et c'est parti aussi, moi, de retrouver un peu un lien avec ces arts culinaires et avec ce terroir, tout ce que la nature nous offre de formidable, quoi.
Et vous n'êtes pas allé très loin, vous êtes allé à Talluyer.
C'est ça. Donc Talluyer, du coup, on a trouvé une ferme et puis donc j'ai passé pas mal de temps à la retaper et puis mettre en place un peu toute la structure et notamment commencer par planter des arbres aussi parce que c'est vrai que dès la base du projet, il y avait cette idée d'agroécologie, d'agroforesterie, donc d'associer beaucoup les arbres et les légumes, mais aussi les arbres et les animaux, les arbres et les céréales, enfin tout un tas de cultures, puis les arbres et le paysage en fait, parce que revenir un petit peu sur le sens du mot paysan, qui était celui qui prend soin du paysage en fait, et plutôt que d'avoir des champs à perte de vue, avoir des arbres et avoir de la couleur, de la biodiversité, des oiseaux, des insectes, des animaux, etc. Donc créer un lieu le plus vivant possible. Voilà, c'était vraiment ça l'objectif.
Résultat aujourd'hui, quelles sont vos productions ?
Alors aujourd'hui, production uniquement légumes dans un premier temps. Je commence à planter les petits fruits et à préparer, en fait, à faire moi-même à préparer mes arbres fruitiers, donc c'est-à-dire à faire des semis d'arbres fruitiers pour pouvoir les planter l'hiver prochain. Et puis installer des poules, installer, on a quelques chèvres, un âne, etc. Donc c'est une phase d'installation qui est assez longue, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut vraiment tout mettre en place, penser à la fois au très long terme, mais aussi au très court terme. Concrètement, qu'est-ce que je produis là le mois prochain, comment je vis pendant que tout se met en place, pendant que les arbres ils poussent, il faut quand même moi que je nourrisse ma famille. Donc voilà, donc là ça fait 2 ans, donc c'est encore très jeune, mais les bases se mettent en place et le cadre commence à devenir aussi de plus en plus accueillant pour la biodiversité et ça se voit assez vite. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui voudraient s'installer ? On parle plutôt des agriculteurs qui ferment leur exploitation ou qui ont des difficultés à la transmettre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui voudraient se lancer ?
Eh ben, qu'il faut aller voir, il faut aller visiter les exploitations à côté de chez soi, il faut aller voir les producteurs, il faut aller faire ses courses chez les producteurs, il faut aller faire des stages, il faut aller faire du woofing, il faut aller discuter, rencontrer. Aujourd'hui, on a une vraie crise au niveau de l'agriculture qui se profile à grande vitesse, qui inquiète pas grand monde. Il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Il n'y a pas de repreneurs, c'est des conditions qui sont quand même difficiles. Donc il ne faut pas hésiter, il faut se regrouper aussi, se mettre à plusieurs, associer un maraîcher avec un éleveur ou avec quelqu'un qui fait du fromage. Enfin vraiment, il y a plein de solutions qui sont envisageables. Donc il faut y aller, mais il faut se préparer quand même à un labeur assez intense.
On peut vivre décemment aujourd'hui de sa production ?
Ça dépend de nos besoins. Pour l'instant, moi j'ai des besoins qui sont vraiment très centrés autour de ma famille. Ça peut aller. Tout dépend, chaque ferme est unique, chaque situation est unique, chaque production, chaque producteur est unique. Donc c'est difficile de généraliser en agriculture sur un schéma de réussite, sur quelque chose qui marche bien. Oui, on peut y arriver. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la chance un peu aussi, de l'accompagnement. Mais oui, c'est tout à fait possible et c'est un vrai combat d'actualité. Il y a des enjeux qui sont très forts, à la fois pour d'un point de vue écologique, d'un point de vue de l'eau, d'un point de vue de la biodiversité, d'un point de vue de l'alimentation. Localement, on l'a vu avec les crises Covid, etc. La métropole importe 80% de sa nourriture, alors qu'il y a tout un tas de producteurs qui sont sur le territoire, mais qui ne sont pas en lien avec les différents acteurs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est un beau combat à mener.
Ce qui fait peur aussi, c'est l'investissement qu'il y a à faire. Hein. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est très prenant d'être agriculteur aujourd'hui.
Alors tout à fait, c'est vrai qu'il ne faut pas compter ses heures, surtout en phase d'installation. Après, tout dépend. On peut très bien reprendre une ferme qui existe déjà, avec des débouchés qui sont déjà en place, des productions qui sont en place. On peut s'associer à plusieurs. Il faut, tout est envisageable. Tout dépend aussi de nos aspirations. C'est sûr que c'est très très prenant, mais après c'est aussi très très riche d'un point de vue humain, parce qu'on retrouve vraiment des sensations, des gestes millénaires un peu de cultivateurs, de paysans. On retrouve un lien concret avec le temps, la temporalité. On n'est plus dans l'immédiat, on est dans la patience, on est dans la persévérance, on est dans la pugnacité, l'effort, mais l'effort au sens noble du terme, entre guillemets. Donc oui, il faut se retrousser les manches, il faut être un peu sportif quand même, il faut tenir un peu la route, mais aussi il faut bien s'entourer et il faut pas hésiter à faire des projets collectifs. Moi je pense que c'est vraiment une des clés de réussite, quoi.
Julien Clavry de la ferme Félin pour l'autre, une ferme située 5 chemin des Terres à Talluyer. Elles ont d'abord été expérimentées en 2021 à Gerland, elles sont arrivées en 2022 à Villeurbanne. Les bornes à compost vont progressivement investir les premiers 2e, 3e, 4e et 8e arrondissements en 2023. Le dispositif permet de collecter plus de 8 tonnes de déchets alimentaires chaque semaine dans le 7e grâce à l'installation de 150 bornes. Au printemps, 300 bornes seront installées dans les 1er, 4e et 8e arrondissements. Ensuite, les 2e et 3e arrondissements de septembre à octobre verront la pose de près de 400 nouvelles bornes. Les communes de Champagne-au-Mont-d'Or, Craponne, Dardilly, Écully et Sainte-Foy-lès-Lyon ont également souscrit au dispositif. 100 tonnes de déchets ont ainsi été collectées en novembre. Les déchets alimentaires collectés sont ensuite transformés en engrais sur des sites de valorisation. Un nouveau centre doit ouvrir prochainement à Rieux-la-Pape.
Lyon demain, découverte.
Mu Éthique est un média indépendant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui parle d'environnement et d'enjeux sociétaux. L'association propose une immersion dans le quotidien des acteurs de la transition environnementale. Parmi ses productions, le podcast À travers leurs yeux. Objectif, plonger les auditeurs dans l'univers et la vie des êtres vivants et témoigner de leur quotidien à notre époque contemporaine. Nous avons rencontré Axel Legroux, il est producteur pour Mu Éthique.
Mu Éthique, c'est une association engagée sur des thématiques sociales et environnementales. Donc au travers de productions audiovisuelles, on va essayer de sensibiliser le grand public sur des causes environnementales et sociales, donc sur la biodiversité, sur l'histoire, sur des thématiques scientifiques, sur l'agriculture urbaine et sur l'alimentation. Enfin vraiment, on essaie de couvrir des sujets assez larges pour pouvoir sensibiliser le grand public.
Alors concrètement, ça s'appelle À travers leurs yeux, donc ça c'est le nom du podcast. Pourquoi À travers leurs yeux?
En fait, notre idée c'est de permettre aux gens de se mettre dans la peau ou à la place de personnages ou de personnes, d'animaux, pour en comprendre toutes les problématiques qui sont autour, tous les enjeux. Par exemple, sur cette saison sur la biodiversité, l'idée c'est de témoigner de la vie de ces espèces, de montrer leurs interactions dans leur écosystème et de montrer les menaces qu'il peut y avoir de sources humaines ou climatiques.
C'est un podcast informatif bien sûr, mais aussi un peu artistique. Hein.
Tout à fait, en fait on a une partie fiction, une première partie fiction d'une dizaine de minutes où on va raconter une histoire à travers les yeux de cette espèce et qui va être ensuite complétée par une partie plus documentaire. Donc là, on va chercher des sources auprès de scientifiques, de naturalistes, d'épidémiologistes pour essayer d'avoir des informations véridiques et au plus proche du réel sur ces espèces.
Qu'est-ce qui vous a incité à créer ce podcast? Quelle est la genèse du projet?
En fait, c'est la thématique de la biodiversité qui nous a paru assez évidente au début et qui nous a beaucoup plu. On a cherché un partenaire pour pouvoir lancer cette saison-là qui nous tenait à cœur et du coup, on est allé voir l'Association pour la protection des animaux sauvages qui est du coup coproducteur sur cette session-là, enfin sur cette saison.
Qu'est-ce que vous envisagez là pour l'avenir, là, quelle production?
On a une saison en cours de production sur l'histoire, donc en lien avec le devoir de mémoire, donc il y a un lien avec le social qu'on souhaite traiter. Et là, ça va être un épisode test à travers les yeux d'un résistant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc Marc Bloch, qui est un historien reconnu et qui a eu un fort héritage pour la France, et qui du coup a été incarcéré au mémorial de Montluc et exécuté à Saint-Dizier-de-Formans au nord de Lyon.
D'accord, donc la première thématique c'est la biodiversité. Ensuite l'histoire, donc c'est quoi? C'est une année, un thème?
Ça va être assez vivant comme concept, je pense. Ça va évoluer en fonction de ce qu'on a envie de faire et des opportunités qui se présentent aussi.
Ok, comment on fait pour vous retrouver alors?
On est disponible sur... déjà on a un site internet, donc mutique.com. Et après on est disponible sur les plateformes de streaming d'écoute de podcasts et de musique, donc Spotify, Deezer. Et on va avoir notre web documentaire sur l'agriculture urbaine qui va être disponible sur YouTube et probablement Imago TV aussi.
Mutique produit différents formats, web-séries, podcasts, interview ou article, transmettre la connaissance, nourrir des réflexions, des motivations et pourquoi pas initier des parcours de vie. C'est la ligne éditoriale de ce nouveau média que vous pouvez retrouver sur internet www.muetique.com, Muetique avec un K. L'Olympique Lyonnais reprend le championnat à Brest ce soir aux absences de Boateng, Gusteau et Henrique blessés, de l'Argentin Tagliafico encore en vacances. S'ajoute aussi le forfait de dernière minute d'Oussem Aouar. Il a déclaré forfait en raison de douleurs musculaires. Décidément du changement à la tête des grands festivals de la région lyonnaise. Après les Nuits de Fourvière, c'est Jazz à Vienne qui va voir son équipe modifiée. Benjamin Tanguy avait décroché en 2016 le poste de directeur artistique du Théâtre Antique. Il s'en va vers de nouvelles aventures. Il a annoncé son départ du festival le 31 juillet 2023. Il avait débuté comme stagiaire en 2009. Benjamin Tanguy part sans destination précise. Une chose est sûre, l'épique Jazz à Vienne va devoir nommer un ou une successeur d'ici le mois de juin prochain. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.